Les grands discours sur France Inter.
Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme. Je m'excuse de le faire devant cette assemblée presque exclusivement composée d'hommes. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. C'est toujours un drame. Cela restera toujours un drame.
Un drame qui, ce 26 novembre 1974, à l'heure où Simone Veil, ministre de la Santé de Valéry Giscard d'Estaing, parle à la tribune de l'Assemblée, un drame qui coûte la vie à 5000 femmes françaises chaque année. Tringle à rideau, cintre, aiguille à tricoter, telles sont les armes de ce que certains appellent encore un crime, alors passible d'emprisonnement et dont les femmes sont en fait les premières victimes. L'avortement est un délit. Les femmes se font avorter clandestinement, souvent dans des conditions d'hygiène dangereuses, et c'est à l'hôpital qu'elles se retrouvent en urgence. À l'époque, il faut qu'une femme frôle la mort pour que l'institution médicale accepte de sauver celles qui ont tenté d'avorter. Le mouvement de lutte pour le droit à l'avortement commence quelques années plus tôt. La France vit le contre-coup de la révolution sexuelle de 1968. Les mœurs libérées doivent cohabiter avec un retour du conservatisme moral et religieux. Des mouvements de libération naissent, comme le MLF, le mouvement de libération de la femme. Elles sont une poignée, puis très vite, des milliers à se rassembler, militer, revendiquer de nouveaux droits et libertés au sein de cette société toujours corsetée et obsédée par cet ordre moral que 68 a bousculé. Lors de meetings et débats, on commence à parler du corps, de la sexualité et de l'avortement. C'est notamment grâce à ces militantes que ce tabou devient débat.
Les grands discours, Christophe Barrère.
Les grands discours, Simone Veil et la loi sur l'avortement. En seconde partie d'émission, nous recevrons Christine Delphi, sociologue, chercheuse au CNRS et militante féministe.
Les grands discours, une émission de France Inter. Sur une idée d'Aurélie Luneau et Jean Bulot, préparée par Caroline Debray, avec l'appui des documentalistes de Radio France et de l'INA.
À la technique, Gaël Braouzec et Bertrand Durand.
Réalisation, Stéphane Ronxin.
Le 5 avril 1971, 343 femmes se dénoncent publiquement et ont le courage d'avouer dans un manifeste publié dans le Nouvel Observateur « Je me suis faite avorter ».
1 million de femmes se font avorter chaque année en France. Elles le font dans des conditions dangereuses, en raison de la clandestinité à laquelle elles sont condamnées. Alors que cette opération, pratiquée sous contrôle médical, est des plus simples. On fait le silence sur ces millions de femmes. Je déclare que je suis l'une d'elles. Je déclare avoir avorté. De même que nous réclamons le libre accès aux moyens anticonceptionnels. Nous réclamons l'avortement libre.
Ces 343 salopes, comme les a surnommées Charlie Hebdo, font parler d'elles dans tout le pays. Parmi elles, de nombreuses célébrités et personnalités intellectuelles et politiques. Catherine Deneuve, Françoise Fabian, Marguerite Duras, Brigitte Fontaine, Antoinette Fouque, Gisèle Halimi, Jeanne Moreau et bien sûr Simone de Beauvoir qui a rédigé le texte. Ces 343 femmes avouent avoir avorté et ne sont pas inquiétées par la justice. C'est un immense coup porté aux opposants. Changeons la loi, disent ces femmes, car cette loi n'est pas appliquée. Le manifeste s'inscrit dans un mouvement féministe en pleine expansion. En Allemagne aussi, des voix s'élèvent avec Romy Schneider et publient un appel similaire dans le journal Le Stern. En France, les militantes du MLF, fondées en 1968, sont nombreuses à le signer. Quant à Simone de Beauvoir et Gisèle Halimi, elles montent l'association Choisir la cause des femmes, qui milite pour le droit à l'avortement. Le 20 novembre 1971, à Paris, des militantes descendent dans la rue et organisent la plus grande manifestation féministe depuis 1936. Des mots d'ordre fusent. Avortement libre et gratuit pour toutes. Un enfant quand je veux, si je veux.
grande manifestation féministe qui se tient à Paris depuis 1936. Environ 2000 femmes, souvent jeunes, quelquefois plus âgées, défilent de la République à la Nation à l'appel du MLF, le Mouvement de Libération de la Femme. Les militantes féministes de 1971 réclament en toute priorité une sexualité heureuse et déchargée des angoissants problèmes matériels, et elles revendiquent la contraception libre et gratuite et la liberté de l'avortement.
En octobre 1972, s'ouvre le procès de Bobigny. Marie-Claire, 17 ans, comparée devant le tribunal pour enfants pour avoir avorté avec l'aide de sa mère après avoir été violée par un camarade de classe. Le procès prend vite une tournure nationale. Pour et contre débattent une loi devenue inadaptée. Gisèle Halimi, l'avocate de Marie-Claire, parvient à faire acquitter tous les accusés et à faire prendre au procès une ampleur médiatique sans précédent.
C'est un pas irréversible pour deux raisons. D'abord parce que, je vous le dis, il a exprimé le désarroi de tous les juges devant ce problème. C'est clair, les attendus sont contradictoires. Il n'y avait pas, je le répète, de raison de faire des poids et des mesures. Et c'est un pas parce que le procès lui-même, quel qu'ait été le jugement, le procès lui-même a marqué un pas irréversible. C'est au juge de changer la loi et d'indiquer qu'elle ne peut plus être appliquée.
La pression monte dans la société pour voir cette loi obsolète et injuste changer. Et si les juges ont déjà reconnu son inutilité, c'est au législateur de trouver une solution et il faut la trouver vite. Les militants pour l'avortement sont de plus en plus en colère et les modes de revendication deviennent de plus en plus spectaculaires. Les manifestes et manifestations ne suffisent plus. Certains médecins menacent de réaliser des avortements sur la voie publique. Le 3 février 1973, 331 médecins, dont le célèbre René Friedman, signent à leur tour un manifeste dans le Nouvel Observateur, déclarant avoir pratiqué l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse. Le 2 avril 1974, Georges Pompidou, président de la République, meurt. Des élections s'organisent en urgence et voient s'affronter Jacques Chaban-Delmas, le Premier ministre, François Mitterrand pour le PS et Valéry Giscard d'Estaing, ancien ministre de Pompidou. Ce dernier, qui fait campagne sur une ligne centriste et progressiste, attache beaucoup d'intérêt aux sujets de société et sent l'importance de la montée du féminisme dans la population, d'autant que le vote des femmes pourrait lui faire gagner beaucoup de voix. Giscard est élu. Le 19 mai 1974, le nouveau président se place dès lors très clairement en faveur d'une orientation de la société vers les revendications féministes et la légalisation de l'avortement.
Alors concernant le problème de l'avortement, c'est un sujet qui devrait être traité par le Parlement lors de sa prochaine session. Et puisque c'est au Parlement de trancher, il ne m'appartient pas de le faire et de le faire à l'occasion d'une réunion de presse, mais je souhaite qu'il tranche dans un sens qui soit libéral et non répressif. Enfin, j'ajoute que j'ai donné comme instruction au gouvernement de ne plus entreprendre de poursuites dans l'attente du vote du Parlement à l'encontre des femmes qui se verraient appliquer la loi de 1900.
Valéry Giscard d'Estaing crée un secrétariat d'État à la condition féminine et y place Françoise Giroud, cofondatrice de l'Express, avec son mari Jean-Jacques Servan-Schreiber, ministre des Réformes. La logique voudrait que Françoise Giroud se charge de l'urgente et difficile question de l'avortement. Mais VGE, soucieux d'avancer au centre sans faire trop de vagues à sa gauche comme à sa droite, la juge trop conceptuelle. Comprendre, provocatrice pour les conservateurs. Alors qui ? Le nom de Simone Veil, secrétaire générale du Conseil supérieur de la magistrature et inconnue du grand public, arrive jusqu'aux oreilles du président, soufflé par Jacques Chirac, son premier ministre. Droite, solide, militante, elle a le parfait profil pour défendre un texte aussi difficile. Simone Veil est une rebelle à la tête dure. Elle fait déjà preuve d'un sacré caractère, d'une réelle volonté. Valéry Giscard d'Estaing lui confie le ministère de la Santé avec comme consigne de faire voter la loi légalisant l'avortement avant la fin de l'année. Voici comment le président Giscard d'Estaing la présente lors de l'annonce du gouvernement.
Deux autres ministres, d'abord une femme, Madame Simone Veil, qui est ministre de la Santé. Madame Simone Veil a été déportée avec sa famille à l'âge de 17 ans à Ravensbrück, À son retour en France, elle a fait des études et elle a accédé au poste important de secrétaire général du Conseil supérieur de la magistrature. Et la voici maintenant chargée de l'ensemble du ministère de la Santé publique en France, mais aussi, vous le savez, à propos de la santé, d'un certain nombre de problèmes qui intéressent directement les femmes.
Simone Veil, chignon impeccable, tailleur strict, allure sévère et regard droit, n'a pourtant aucune expérience dans le domaine de la santé. Et elle n'est pas dupe du sens qu'il faut donner à sa nomination. J'ai le sentiment d'être la femme alibi qui donne bonne conscience. Mais qu'à cela ne tienne, et c'est avec toute assurance que lui confère son statut de magistrate qu'elle monte sur le perchoir pour défendre la loi qui rendra l'avortement légal en France, plus comme une militante des droits de la femme que comme une féministe.
Non, je ne suis pas forte, mais je ne veux pas qu'on me porte. Non, je ne suis pas forte, mais je ne veux pas qu'on m'escorte. Non, je ne suis pas forte, mais jamais ne m'arrêterai. Non, je ne suis pas grande, mais je ne veux pas qu'on m'attende. Non, je ne suis pas grande, mais je voudrais bien qu'on.
Inter. Les grands discours, Christophe Barrère.
Le 26 novembre 1974, Simone Veil s'adresse aux députés pour présenter le projet de loi qui marquera le septennat de Valéry Giscard d'Estaing. Le projet, une loi qui autorise pour toute femme majeure l'avortement dans les 10 premières semaines de la grossesse, quelle qu'en soit la raison. La procédure devra être accomplie dans un hôpital et par un médecin. Ses tarifs encadrés pour éviter l'enrichissement des praticiens. Mais elle ne sera pas remboursée par la Sécurité sociale.
Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Si j'interviens aujourd'hui à cette tribune, ministre de la Santé, femme et non parlementaire, pour proposer aux élus de la nation une profonde modification de la législation sur l'avortement, croyez bien que c'est avec un profond sentiment d'humilité devant la difficulté du problème, comme devant l'ampleur des résonances qu'il suscite au plus intime de chacun des Françaises et des Français, et en pleine conscience de la gravité des responsabilités que nous allons assumer ensemble.
Le débat sera houleux, elle le sait. La question de l'avortement est très sensible, s'y mêle santé publique, religion et politique. Mais le fait que la loi soit portée par le ministre de la Santé et non pas par le ministre de la Justice permet de faire jouer l'argument du problème de santé publique. Le débat ne se situe plus seulement au niveau de la loi et de sa sévérité, mais bien au cœur de la société, dans l'urgence de la situation des milliers de femmes qui meurent des suites d'avortements clandestins chaque année. Simone Veil sait qu'elle peut plus facilement faire jouer la carte de la sensibilité et de la compassion que si le débat avait été purement pénal.
Actuellement, celles qui se trouvent dans cette situation de détresse, qui s'en préoccupe ? La loi les rejette non seulement dans l'opprobre, la honte et la solitude, mais aussi dans l'anonymat et l'angoisse des poursuites. Contraintes de cacher leur état, trop souvent elles ne trouvent personne pour les écouter, les éclairer et leur apporter un appui et une protection. Parmi ceux qui combattent aujourd'hui une éventuelle modification de la loi répressive, combien sont-ils ceux qui se sont préoccupés d'aider ces femmes dans leur détresse ? Combien sont-ils ceux qui, au-delà de ce qu'ils jugent comme une faute, ont su manifester aux jeunes mères célibataires la compréhension et l'appui moral dont elles avaient un si grand besoin ?
Son but est évidemment de convaincre les députés de voter en faveur de son projet de loi. Mais si la population française est majoritairement favorable à un changement de la loi, ce n'est pas le cas des députés. Sur 490, seuls 9 d'entre eux sont des femmes. Et aussi bien dans les bancs de la majorité que chez l'opposition, nombreux sont les députés qui refusent une réforme de la loi de 1920. Pour preuve, 6 mois plus tôt, le 13 décembre 1973, sous la présidence de Pompidou, l'Assemblée nationale examine un projet de loi du gouvernement Messmer porté par le ministre de la Santé de l'époque, Michel Poniatowski, autorisant l'interruption de grossesse en cas de risque pour la santé physique, mentale ou psychique de la femme, d'un risque élevé de malformation congénitale ou d'une grossesse consécutive à un acte de violence. Le texte est finalement repoussé par 225 voix contre 212. Simone Veil doit alors convaincre de l'urgence de voter sa loi tout en rassurant les plus conservateurs des législateurs. Elle construit alors son argumentaire pour défendre le projet de loi autour de 3 axes. 1. Faire une loi immédiatement applicable pour sortir de la situation de non-droit actuelle. 2. Dissuader les femmes. 3. Les protéger. Son ton est à la fois technique mais sensible, compatissant mais ferme. Avant d'entrer dans le détail de sa loi, il lui faut éclaircir le principal problème éthique que pose la question de l'avortement. Est-ce un crime ? Simone Veil y parvient habilement, même si la suite des débats nous prouve que la question reste toujours présente.
Plus personne ne conteste maintenant que sur un plan strictement médical, l'embryon porte en lui définitivement toutes les virtualités de l'être humain qu'il deviendra. Mais il n'est encore qu'un devenir qui aura à surmonter bien des aléas avant de venir à terme. Un fragile chaînon de la transmission de la vie. Et c'est, sauf pour les femmes qu'animent une profonde conviction religieuse, ce décalage entre ce qui n'est qu'un devenir pour lequel la femme n'éprouve pas encore de sentiments profonds et ce qu'est l'enfant dès l'instant de sa naissance qui explique que certaines qui repousserait avec horreur l'éventualité monstrueuse de l'infanticide, se résigne à envisager la perspective de l'avortement. Combien parmi nous, devant le cas d'un être cher dont l'avenir serait irrémédiablement compromis, n'ont pas eu le sentiment que les principes devaient parfois céder le pas ? Il n'en serait pas de même, c'est évident, si cet acte était véritablement conçu comme un crime comme un autre.
Puis Simone Veil entre dans le cœur de son projet. Le premier axe est très technique. Il faut mettre en place des moyens de rendre la loi applicable, donc retirer tous les freins qui empêchent les femmes d'avorter. Tout d'abord, donner automatiquement l'autorisation aux femmes de se faire avorter. Elles ne doivent plus sentir qu'elles sont face à un tribunal. Dissuader, c'est l'axe principal de son discours. C'est là où se situe le point qui permettra de convaincre certains sceptiques. Les femmes ont de toute façon recours à l'avortement. Il faut dès lors mettre en place des conditions et une information qui leur permettent de prendre une autre décision. Pour convaincre les détracteurs, ne pas faire apparaître la loi comme une loi qui inciterait à un crime, il faut autoriser l'avortement, mais ne pas donner de droit à l'avortement.
Ce n'est pas un paradoxe que de soutenir qu'une femme, sur laquelle pèse l'entière responsabilité de son geste, hésitera davantage à l'accomplir que celle qui aurait le sentiment que la décision a été prise à sa place par d'autres. Le gouvernement a choisi une solution marquant clairement la responsabilité de la femme parce qu'elle est plus dissuasive, au fond, qu'une autorisation émanant d'un tiers qui ne serait ou ne deviendrait vite qu'un faux semblant. Ce qu'il faut, c'est que cette responsabilité, la femme ne l'exerce pas dans la solitude ou dans l'angoisse.
Pour cela, il faut protéger les femmes. La loi que prévoit Simone Veil doit faire en sorte que, quelle que soit la situation des femmes, elles puissent choisir d'avorter dans de bonnes conditions, à l'hôpital, par un médecin, sans risquer de se faire arnaquer par des charlatans qui voudraient profiter de sa faiblesse. Chaque femme, quelle que soit sa situation financière, doit pouvoir avorter dans de bonnes conditions également. C'est là un moyen d'éviter que de nouvelles femmes, par défaut de moyens de paiement, n'aient besoin de recourir à un avortement clandestin. Mais il ne faut pas non plus que la sécurité sociale le rembourse dans tous les cas. Cela pourrait être pris comme une incitation dans l'état d'esprit de l'époque. Les lois Veil prévoiront alors une aide médicale d'État pour les plus démunis. En tout cas, l'évidence est là. L'urgence de mettre fin aux avortements clandestins qui tuent chaque année des milliers de femmes. C'est d'ailleurs porté par cette idée qu'elle termine son discours.
Nous ne pouvons plus fermer les yeux sur les 300 000 avortements qui chaque année mutilent les femmes de ce pays, qui bafouent nos lois et qui humilient ou traumatisent celles qui ont recours. L'histoire nous montre que les grands débats qui ont divisé un moment les Français apparaissent avec le recul du temps comme une étape nécessaire à la conformation d'un nouveau consensus social qui s'inscrit dans la tradition de tolérance et de mesure de notre pays. Je ne suis pas de ceux et de celles qui craignent l'avenir.
L'avenir immédiat, c'est tout d'abord les débats à l'Assemblée. Pendant 3 jours et 2 nuits, les députés se succèdent au micro pour apporter leur point de vue et donner leur avis. Une partie des débats est retransmise en direct à la télévision publique. Les débats prennent une dimension inattendue, d'une violence rare, où se mêlent insultes et mensonges et pousseront Simone Veil à pleurer. Certains députés vont même jusqu'à évoquer la Shoah, ou encore à faire entendre un enregistrement de battements de cœur d'un fœtus.
En France, comme partout, le commerce de la mort deviendra la spécialité lucrative d'avorteurs et d'avortoirs patentés, où l'on se préoccupera, comme on le fait déjà en Angleterre, de la revente des fœtus avortés à des usines de traitement des graisses animales, où l'on procédera, comme on le fait déjà dans les pays qui ont légalisé l'avortement, à des expériences dites scientifiques sur les fœtus encore vivants. Cela ne s'appelle plus du désordre, madame. Cela ne s'appelle même plus de l'injustice. C'est de la barbarie organisée et couverte par la loi, comme elle le fut, hélas, il y a 30 ans, par le nazisme en Allemagne.
Mes chers collègues, permettez-moi de vous faire entendre un enregistrement d'un cœur de fœtus de 8 semaines et 2 jours. Et vous voudriez que nous fassions disparaître les bruits de ce cœur que vous venez d'entendre.
La loi est finalement votée par l'Assemblée, puis par le Sénat, et rentre en application dès janvier 1975. Afin de rassurer les opposants, cette loi reste provisoire pendant 5 ans. Le 31 décembre 1979, le Parlement la rend définitive. L'avortement est enfin légal en France. Depuis, la loi a beaucoup évolué. En 1982, l'avortement est remboursé par la Sécurité sociale. en 1993, le délit d'entrave à l'IVG est inscrit dans le code pénal. Aujourd'hui, l'interruption volontaire de grossesse nous paraît un droit inaliénable. Pourtant, un peu partout en Europe, les gouvernements et partis de droite le menacent et veulent le limiter, comme en Pologne et en Espagne. En Irlande, l'avortement reste interdit par la loi, comme l'analyse ce reportage de France Info, diffusé en 2015.
Le droit à l'avortement existe dans la majorité des pays membres de l'Union européenne, mais 5 pays sont restrictifs, on va dire, avec plus ou moins de nuances. Il s'agit de l'Irlande, de la Pologne, de l'Espagne, de Malte et de Chypre. C'est à ces pays qu'on va s'intéresser ce soir.
Alors, l'Irlande d'abord, c'est l'un des pays les plus restrictifs.
Oui, la République d'Irlande, dans ce pays, l'avortement est illégal, sauf si la grossesse met en danger la vie de la femme enceinte. Il faut savoir qu'avant 2013, l'interdiction était totale.
Et en cas de viol ?
Pas d'IVG non plus, et impossible d'avorter en cas de malformation du fœtus. Ça ne semble pas prêt de bouger, puisqu'un projet de loi pour légaliser l'avortement a été rejeté, pas plus tard que l'été dernier.
La Pologne, maintenant.
On est assez proche de l'Irlande, dans ce pays de tradition catholique, lui aussi. La Pologne a très sérieusement restreint ce droit il y a près de 20 ans, alors que l'IVG était permise pendant 40 ans sous l'ère communiste. Aujourd'hui, l'avortement est illégal, sauf en cas de danger pour la santé de la femme enceinte, en cas de viol et en cas de malformation du fœtus. Mais voilà, la majorité conservatrice polonaise a récemment tenté d'interdire totalement l'IVG. Des dizaines de milliers de femmes sont descendues dans les rues en Pologne et le projet a été rejeté.
Tu n'as pas de nom, non, tu n'as pas d'existence, tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas de nom. Oh non, tu n'es pas un être, tu le deviendrais peut-être si je te donnais asile, si c'était moins difficile, s'il me suffisait d'attendre, de voir mon ventre se tendre. Si ce n'était pas un piège ou quel douteux sortilège. Non, non, tu n'as pas de nom. Non, tu n'as pas d'existence. Tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas de nom. Savent-ils que ça transforme l'esprit autant que la forme, qu'on te porte dans la tête, que jamais ça ne s'arrête. Tu ne seras pas mon centre. Que savent-ils de mon ventre? Pensent-ils qu'on en dispose quand je suis tant d'autres choses? Non, non, tu n'as pas de nom. Non, tu n'as pas d'existence. Tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas de nom. Déjà, tu me mobilises, je sens que je m'amenuise, et d'instinct je te résiste. Depuis si longtemps j'existe, depuis si longtemps je t'aime, mais je te veux sans problème. Aujourd'hui je te refuse, qui sont-ils ceux qui m'accusent? Non, non, tu n'as pas de nom. Non, tu n'as pas d'existence, tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas de nom. À supposer que tu vives, tu n'es rien sans ta captive. Mais as-tu plus d'importance, plus de poids qu'une semence? Oh, ce n'est pas une fête, c'est plutôt une défaite. Mais c'est la mienne et j'estime qu'il y a bien deux victimes. Non, non, tu n'as pas de nom. Non, tu n'as pas d'existence, tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas de nom. Ils en ont bien de la chance, ceux qui croient que ça se pense. Ça se hurle, ça se souffre, c'est la mort, c'est le gouffre. C'est la solitude blanche, c'est la chute, l'avalanche. C'est le désert qui s'égrène, larme à larme, peine à peine. Non, non, tu n'as pas de nom. Non, tu n'as pas d'existence, tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas de nom. Qui quiconque se mettra entre mon existence et mon ventre n'aura que mépris ou haine, me mettra au rang des chiennes. C'est une bataille lasse qui me laissera des traces, mais de traces je suis faite, et de coups et de défaites. Non, non, tu n'as pas de nom. Non, tu n'as pas d'existence, tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas de nom.
Aujourd'hui, dans les grands discours, sur France Inter, Simone Veil et la loi sur l'avortement. Bonjour Bibi Pavard.
Bonjour.
Vous êtes historienne, maîtresse de conférences à l'Institut français de presse de l'Université de Paris 2. Vous avez écrit de nombreux livres, dont « Si je veux, quand je veux », « Contraception et avortement dans la société française » aux presses universitaires de Rennes et « Les lois Veil ». Alors tout d'abord, avant de revenir absolument sur le discours et le combat qu'a mené Simone Veil quand même ce 26 novembre 1974, je voudrais que juste avant, quelques mois avant, on essaie de, dans le contexte de l'époque, dans le contexte historique, comment Giscard d'Estaing, Valéry Giscard d'Estaing, qui vient d'être élu, pense à cette loi tout de suite en début de mandat, qu'il veut faire passer à l'automne. Première question. Et pourquoi pense-t-il à Simone Veil?
Alors, la réponse est double. Tout d'abord, Valéry Giscard d'Estaing n'a pas le choix. Il doit mener cette réforme qui est déjà, sur les bancs de l'Assemblée depuis 1973. Et surtout, il doit répondre à une mobilisation qui a pris de l'ampleur dès 1970 autour de cette question de l'avortement. Hein, ce sont les militantes du mouvement Libération des Femmes qui ont d'abord porté cette question de l'avortement en faisant une question de droit de disposer de leur corps pour les femmes.
Avec le mouvement des 343.
Avec le manifeste des 343 femmes qui ont déclaré avoir avorté dans le Nouvel Observateur le 5 avril 71. Et puis il y a eu les procès de Bobigny qui ont eu un retentissement médiatique énorme qui ont permis à Gisèle Halimi de faire véritablement le procès de cette loi, la loi de 1920, donc qui interdit aux femmes d'avorter. Et elle a montré, Gisèle Halimi, les inégalités sociales très fortes face à cette loi. À la suite de ça, les mobilisations prennent de l'ampleur. Le mouvement pour la liberté de l'avortement et de la contraception pratique des avortements illégalement, mais au vu et au su de tous. Du coup, l'ensemble de ces mobilisations sur un échiquier large politiquement a conduit à la mise à l'agenda politique et parlementaire. Il y a déjà eu une discussion d'une réforme de la loi en 1973, on l'oublie, qui a échoué parce que la réforme était un peu trop timide, mais elle était sur le point d'être rediscutée au moment où le président Pompidou décède. Et du coup, finalement, ce qu'on oublie, c'est que Valéry Giscard d'Estaing prend la suite d'un dossier. Il ne commence pas quelque chose. Néanmoins, il faut quand même noter qu'il décide d'en faire une réforme emblématique du début de son mandat. Et effectivement, pour lui, c'est une façon d'afficher sa volonté de réforme, sa volonté de modernisation du pays. Et ce qui caractérise tout de même son positionnement, c'est d'avoir choisi effectivement Simone Veil comme ministre de la Santé.
Ça, c'est une vraie question, parce que c'est Chirac qui lui propose. Jacques Chirac lui propose le nom de Simone Veil. Simone Veil n'est pas politicienne, elle est magistrate. Elle n'est pas très connue.
Elle n'est pas connue du tout du grand public.
Pas connue du tout. Pourquoi alors?
Alors, effectivement, son nom est proposé au moment où Valéry Giscard d'Estaing cherche des femmes à mettre dans son gouvernement. Il décide aussi symboliquement de faire entrer davantage de femmes dans le gouvernement. Et il va donc porter son choix sur cette femme qui bénéficie déjà d'un certain nombre de soutiens politiques du fait de son statut de magistrate. Elle a aussi tout de même eu des fonctions de haut fonctionnaire. Elle bénéficie aussi des réseaux de son mari, Antoine Veil, qui est énarque. Et donc, elle est choisie et c'est un choix extrêmement judicieux dans la mesure où, effectivement, elle n'est pas politicienne. Donc, elle est capable de créer un consensus autour de cette réforme qui est justement extrêmement clivante dans la vie politique française.
Et qui est toujours, d'ailleurs, à cette époque-là.
Oui, tout
très
à
fortement,
fait.
Bien sûr.
Très fortement. Et du coup, le fait qu'elle soit une femme, ça permet aussi, très symboliquement, d'aller dans le sens des revendications féministes qui avaient fait de la question de l'avortement une question de femmes, pour les femmes, par les femmes. Et du coup, le fait de choisir une ministre, la première femme ministre de plein exercice de la Ve République, il faut le rappeler, est une stratégie qui va être payante.
Et est-ce que pour Giscard d'Estaing, l'idée de faire passer ça, de faire porter cette loi par Simone Veil, ministre de la Santé, place le problème et la question morale de l'avortement sur la santé, la médicalisation, et non pas par le ministère de la Justice, par exemple, qui l'aurait placé sur tout autre domaine, non?
Alors effectivement, lorsque un premier projet de réforme avait été porté en 73, c'était conjointement par le ministre de la Santé et le ministre de la Justice. Hein. Donc, effectivement, là, c'est simplement la ministre de la Santé, donc ça positionne déjà les choses. Mais ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'il ne demande pas à la secrétaire d'État à la condition féminine, qui est alors Françoise Giroud, de défendre le dossier, alors qu'on aurait pu imaginer que ça allait dans le sens d'une amélioration des droits, d'un approfondissement des droits des femmes. Et là, le choix est très stratégique. Il s'agit non de ne pas présenter cela comme un droit nouveau pour les femmes, mais plutôt comme une tolérance, comme plutôt une volonté de lutter contre les dangers auxquels font face les femmes qui doivent avoir recours à l'avortement clandestin. Et du coup, effectivement, le fait de centrer sur un problème médical permet aussi une forme de dépolitisation.
Oui, parce que Simone Veil, à l'époque, quand même, n'est pas féministe. Elle serait plutôt militante des droits de la femme que féministe.
Alors, elle le dit à plusieurs reprises, notamment dans les médias, elle ne se présente pas comme féministe. Elle a, effectivement, dans son parcours, dû faire face à un certain nombre d'obstacles en tant que femme magistrate. Elle a construit une certaine identité de genre autour de cette position de magistrate aux fonctionnaires. Elle a contribué à la réforme du code de la famille, ces réformes qui sont en faveur des femmes dans la place des femmes dans la famille. Donc elle a tout de même effectivement une attention particulière aux droits des femmes, mais elle ne se revendique absolument pas féministe et elle ne tient pas du tout à être associée au mouvement féministe qui est extrêmement important à ce moment-là et qui est du coup beaucoup trop radical par rapport au consensus qu'elle essaye de forger.
Call me on. Take me out of modern confusion. Underneath the sky, onto stony ground, wild grasses cushion every step, wild grasses.
Grand discours, Christophe Barrère.
On se retrouve, Bibi Bavard, pour cette seconde partie, et je voudrais qu'on passe directement à la seconde étape, celle du discours même, ce 26 novembre 1974, à l'Assemblée, pour défendre la loi sur l'avortement, face à elle, beaucoup de députés, et beaucoup de députés qui sont contre elle, et contre cette idée même de l'avortement et de la contraception, évidemment. Alors, ce que je voudrais voir avec vous, c'est quand elle monte sur les tribunes, à la tribune, et qu'elle commence à parler. Le discours est clair, précis, et tout d'un coup, dans les débats qui suivent le discours, ça dérape. Et ça dérape violemment. On l'attaque, et on l'attaque sur son passé et sur sa religion.
Alors, effectivement, les débats sont extrêmement passionnés à l'Assemblée. Ils sont longs. Ils voient
trois jours, c'est ça, non?
Tout à fait, du 26 au 28, jour et nuit. Hein, donc, c'est extrêmement éprouvant. Et de très, très nombreux intervenants, effectivement, à la tribune pour s'opposer à cette réforme, mais aussi pour la défendre. Et effectivement... la tentative de Simone Veil, ça a été de dépolitiser, ou en tout cas de sous-politiser la réforme, d'en faire quelque chose de très technique, d'en faire quelque chose de juste et de protecteur pour les femmes. Et donc, elle a eu un discours qui était extrêmement technique, mesuré, lors de son intervention. Mais face à elle, elle a effectivement des députés qui, au contraire, vont sur-politiser la question. Alors, à droite de l'échiquier politique, les opposants mettent en avant des arguments qui sont principalement moraux et religieux. Et disons que cela tourne autour de l'idée que cette loi va permettre le meurtre d'innocents, et qu'elle se fait la complice de ce meurtre, avec toujours une référence au projet eugéniste et donc au projet de nazi, hein, de la Shoah. Donc effectivement... Il y a là une rhétorique qui était déjà présente dès le moment où la réforme de l'avortement a été posée au début des années 70. C'est vraiment cette comparaison entre l'avortement et le projet nazi. Hein, et donc effectivement, dans les discours, à plusieurs reprises, il y a une comparaison qui est faite entre la légalisation de l'avortement et l'extermination des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, avec une comparaison, même une évocation des fours crématoires. Mais elle n'est pas directement attaquée pour sa religion. Moi, j'aurais plutôt tendance à dire que c'est quelque chose qui est encore très euphémisé dans le discours à ce moment-là. Ça n'apparaît pas aussi clair que ça, parce que un certain nombre de députés ne savent pas qu'elle a un passé de déporté. En revanche, il y a aussi, il faut le souligner, des députés qui la soutiennent très ardemment. Et notamment les députés de l'opposition, donc de la gauche socialiste ou communiste, qui vont voter pour ce projet, qui vont soutenir cette réforme alors menée par un gouvernement de droite, et qui focalisent leur attention sur le courage de Simone Veil, sur sa droiture, sur en fait sa personnalité, ce qui permet aussi, d'une certaine manière, de justifier leur adhésion à ce projet qui est porté par l'opposition.
Je parlais de violence, mais dans la première partie, dans le récit, on entend une archive d'un député qui fait entendre le battement d'un cœur d'un embryon.
Bon, tout à fait.
Quand même... Alors, est-ce que c'est vrai aussi que Simone Veil pleure à un moment donné à l'Assemblée?
Alors ça, c'est très étrange parce que...
C'est ce qu'on retrouve un peu dans la presse de l'époque. Hein.
Alors, on ne le retrouve pas dans la presse de l'époque. On commence à le retrouver 10 ans, 20 ans après.
Ah bon?
Et effectivement, elle n'a pas pleuré. Elle n'a jamais confirmé qu'elle avait pleuré. Il y a juste une photographie qui a été prise d'elle à un moment donné où elle baisse les yeux. Mais on peut tout à fait imaginer qu'il s'agit d'un signe de fatigue lié à la durée et l'intensité de ces débats.
Et en France, parmi les Français qui suivent le débat, elle reçoit des lettres assassines aussi quand même. Hein.
Alors il y a des très fortes mobilisations en dehors de l'Assemblée. Il faut savoir que le jour où elle se rend donc à la tribune, devant l'Assemblée, il y a une manifestation de femmes qui égrènent leur chapelet et donc prient pour les futurs innocents assassinés. Il y a aussi des mobilisations du mouvement de libération des femmes, des mouvements féministes qui sont là pour soutenir la réforme. Donc il y a vraiment une très forte intensité de ces débats dans la société. Et effectivement, elle a déclaré avoir reçu des courriers extrêmement violents, des formes des coups de téléphone aussi anonymes. Donc il y a une forme de mobilisation de la part de l'opposition qui passe par des formes de harcèlement vis-à-vis de sa personne. Et il faut peut-être aussi rappeler qu'effectivement, progressivement, cette loi en vient à devenir sa loi, être associée à sa personne, et c'est la raison pour laquelle elle va focaliser aussi autant d'attention et de signes de haine à ce moment-là.
Est-ce que les mouvements de libération de la femme, le MLAC, Choisir, la soutiennent ?
Alors c'est un soutien qui est un peu ambigu. Effectivement, c'est un soutien critique dans la mesure où le projet de loi ne correspond absolument pas à ce que demandaient les mouvements féministes. Et donc, lorsque le projet est présenté, il y a une réception critique de la part du MLAC, de la part des féministes. Choisir soutient un peu davantage, mais ce n'est pas la loi qui est évoluée. Et d'ailleurs, une fois qu'elle est votée, la réception de la part du mouvement féministe est une réception en demi-teinte, hein, qui signale à la fois une avancée, mais une grosse déception par rapport au texte qui est en fait très limité.
Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe avec les nouvelles manifestations, que ce soit la manif pour tous, le sens commun? On a l'impression que cette loi sur l'avortement, pas directement, même indirectement, insidieusement, ces gens-là voudraient la remettre en cause. Et il y a un groupe à l'intérieur même, je pense, de manif pour tous, qui s'appelle les survivants, qui eux remettent sacrément en cause, d'une façon aussi, pas directement, mais quand même détournée, cette loi pour la contraception et cette loi pour l'avortement.
Alors, il faut effectivement souligner le fait que l'opposition à cette loi a existé dès le moment du débat et s'est poursuivie depuis, et n'a pas cessé de se renouveler dans des formes de mobilisation qui ont pu aller de pétitions, de manifestations, de tentatives d'entrave à la réalisation d'IVG dans les centres. Donc il y a eu vraiment une mobilisation qui a été soutenue et qui s'est renouvelée dans les années 2000, effectivement, autour de la manif pour tous et de la mobilisation annuelle contre l'IVG. Donc ça, c'est maintenant tenu. Mais il faut quand même voir que ces positions sont extrêmement minoritaires aujourd'hui en France. Il y a quand même un consensus autour de cette loi sur l'avortement qui aujourd'hui est véritablement devenu un droit auquel les citoyens et citoyennes françaises sont attachés. Et il est quand même très difficile de revenir sur cet acquis. Néanmoins, vous avez raison, il y a ce nouveau groupe, les survivants, qui justement a mis l'accent sur le caractère traumatisant de cette loi et qui justement se réclame de la figure de Simone Veil, assez paradoxalement, pour dire qu'il faudrait revenir justement à la loi telle qu'elle a été votée en 75, c'est-à-dire très limitée, très encadrée, alors que justement, depuis cette date, elle a beaucoup évolué, elle a été très approfondie, le remboursement par la Sécurité sociale, le délit d'entrave à l'IVG, la suppression de la situation de détresse très récemment. Donc le texte est beaucoup amélioré et finalement, il n'y a pas une loi Veil, mais des lois Veil qui se sont transformées au cours du temps.
Merci beaucoup, Bibi Bavard, pour votre analyse, pour nous avoir aidé à comprendre un peu cette loi Veil de 1974. C'était Les Grands Discours, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur France Inter. Vous pouvez aussi retrouver la série Webdoc sur Les Grands Discours sur les sites France Inter et d'Arte. Bel été à tous et à la semaine prochaine.